Donc, c'est le cours sur la personne de Christ. On étudie toutes les doctrines, ben toutes, en tout cas la plupart des doctrines entourant la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va regarder sa préexistence. Donc, la semaine passée, on a vu la place de Jésus dans la Trinité, pour se rappeler que Jésus, finalement, est Dieu. Aujourd'hui, on voit sa préexistence. On va voir plus tard sa divinité. Donc, c'est sûr que les sujets se recoupent un peu. Hein. Parfois, on étudie même les mêmes passages bibliques pour différentes doctrines, différentes vérités, mais c'est normal. Ensuite, on va voir sa venue qui a été annoncée dans l'Ancien Testament de diverses manières. Son incarnation, donc il est venu en tant qu'homme humain. Son titre de fils de Dieu, qu'est-ce que ça signifie, qu'il est le fils de Dieu. Sa mort, sa résurrection, son ascension. Ensuite, son rôle de médiation. Donc, il est le médiateur. Qu'est-ce qu'on entend par là qu'il est médiateur? Puis souvent, on divise son rôle en trois fonctions. Prêtre ou sacrificateur, prophète et roi. Mais ces trois fonctions-là, en fait, il le fait à titre de médiateur entre Dieu et les hommes. Et on va conclure avec sa deuxième venue, son retour. Donc, on fait un petit rappel la semaine passée, juste une page, là, un rappel de la définition de la Trinité. On a vu qu'il y a Dieu et que le Père, à chaque fois que la Bible parle du Père, le Père est Dieu. Même le plus souvent, quand on utilise le mot Dieu dans la Bible ou le mot éternel, on désigne le Père. En fait. C'est assez évident que le Père est Dieu, mais le Fils est Dieu aussi, et le Saint-Esprit est Dieu. Donc, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas seulement le souffle ou la pensée de Dieu, c'est une personne. Mais ils sont distincts. Donc, le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Pourtant, les trois sont un seul et même Dieu. Donc, on se souvient des trois éléments de la définition. Il y a un seul Dieu, unique. Unique parce qu'il est le seul qui existe. Unique aussi parce qu'il est vraiment différent de tous les dieux, toutes les divinités qu'on pourrait s'inventer. Il est le seul en son genre. Il n'y a personne, rien qui arrive à sa cheville. Aussi, il est en trois personnes distinctes. Pas distinctes parce qu'elles sont différentes, mais distinctes parce qu'elles sont à part entière, des personnes ayant leur propre volonté, désir, capable de ressentir les choses, capable d'être en relation, de communiquer, capable d'éprouver des sentiments, capable d'agir, mais pas indépendants, ils sont liés. Leur volonté est toujours compatible, mais chaque personne est à part entière. Et chaque personne est pleinement Dieu, pas seulement une partie de Dieu ou un petit Dieu. Les trois sont pleinement Dieu à 100%. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur la préexistence de Christ. En fait, c'est le fait que Jésus ait existé avant de naître sur terre. Donc on a fêté Noël il n'y a pas longtemps, et c'était tout un événement là, que Jésus, l'enfant promis, est né. Mais ce qu'on croit, c'est qu'il existait avant de naître. Ce n'était pas le début de son existence. Donc on va voir sa préexistence présentée dans Jean, l'Évangile de Jean, dans Hébreu, dans les Écrits de Paul. Puis on va terminer avec les Évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui sont plus subtils. Donc, celui qui en parle le plus, on peut dire, c'est Jean. C'est comme le théologien, le premier théologien. Donc on va aller tout de suite dans Jean, la préexistence de Christ. Jean 1, 1 à 3. Donc est-ce qu'il y a des éléments là-dedans, dans ces versets, qui montrent que Jésus existait avant de venir sur terre, il montre sa préexistence. Oui, donc la parole existait. Selon ce verset-là, est-ce qu'on peut conclure que la parole existait? Mais on voit plus loin dans le chapitre que la parole, c'est Jésus. En fait. Est-ce qu'on peut conclure que Jésus existait, la parole existait avant de naître sur terre, d'après ces versets? C'est « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Mais littéralement, c'est pas ça qui est écrit, là. C'est bon, la sommaire, parce que ça nous aide à comprendre. Mais littéralement, c'est vraiment ce qui est écrit, comme dans la version Colombe. Au commencement était la parole, avec l'article, la parole. Donc, c'est pas juste une parole, c'est la parole. Mais c'est le verbe « était » qui est intéressant. C'est pas « au commencement fut la parole ». C'est « était ».« Était » dans le sens que d'une continuité. Quand c'est le mode imparfait, en grec, ça indique un état qui est comme continuel. Et dans ce cas-ci, on comprend même était la parole, il existait, l'existence continuelle qui n'est pas limitée. En tout cas, il n'y a pas de limites qui sont précisées. Il existait. Donc, ce n'est pas que la parole, tout à coup, est venue à l'existence. Elle existait déjà. Et au commencement, ce n'est pas à la fête du premier Noël. On comprend dans le langage biblique que c'est le commencement du monde. En fait, c'est un rappel même aux premières paroles de la Bible dans Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, Jean ici reprend la même expression, au commencement. Donc, si la parole existait déjà au commencement, ben, c'est parce qu'elle existait avant même la création du monde. Même avant la création du royaume céleste, où les anges habitent. En fait, la parole existait. C'est bon? Si on va un peu plus loin, c'est 9 à 14. Donc, est-ce qu'il y a un indice dans ce passage-là qui montre que Jésus existait, que la parole existait avant de naître sur terre? Oui, il était le Créateur. Oui, c'est toujours la lumière. C'est intéressant de voir que dans Genèse, le point de départ de toute la création, c'est que la lumière fut. Mais bon, lui, il était la lumière même avant que la création existe. Mais c'est comme si tout a été créé à partir de lui. Mais il y a un aspect important, c'est qu'il est venu dans le monde. C'est répété à plusieurs reprises, ça. Venant dans le monde, où il est venu, comme le Fils unique venu du Père. Il a été fait chair. C'est pas juste qu'il est... nous sommes tous faits chair, finalement. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais quand on dit que la parole a été faite chair, c'est qu'elle a changé de forme, là. Ou elle a pris forme, en fait. Elle est devenue chair. Elle est devenue un être humain. Donc forcément, logiquement, elle existait avant de devenir humain sur terre. Elle est venue, descendue sur la terre pour habiter parmi nous. Ouais, elle est devenue homme. Ça sous-entend qu'avant, elle ne l'était pas. Donc elle a pris vraiment forme humaine. Donc ici, c'est hors de tout doute, là, une déclaration de la préexistence de Jésus en tant que parole de Dieu, avant qu'il vienne sur terre. On a un peu plus loin dans Jean 8, un passage important qui a choqué les Juifs quand ils entendaient Jésus. Jean 8, versets 56 à 59. Pourquoi est-ce que c'était surprenant que Jésus dise, ben, « J'ai vu Abraham. » Est-ce que c'était surprenant, ça? Abraham, en fait, quand on fait le calcul, il a vécu 1800 ans avant Jésus. Il dit, Abraham m'a vu, puis il s'est réjoui. Bon, s'il l'a vu, c'est parce que Jésus l'a vu aussi, là. Les Juifs disent, voyons donc, t'as pas encore 50 ans, puis t'as vu Abraham, notre père. Abraham, qui est le père de la nation juive, là, le père d'Isaac, le père de Jacob, les 12 tribus. Donc, c'est toute une déclaration, ça. Jésus dit qu'il l'a vu, là. Il existait. Mais ce qui est encore une coche plus frappante encore, c'est qu'il dit pas seulement, à l'époque d'Abraham, j'étais ou j'existais. Il dit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il parle au présent. Ça, c'est un indice fort, là. Avant, il dit, je suis, avant même qu'Abraham existe, avant qu'il vienne au monde. Le fait qu'il parle au présent, ça montre encore son existence continuelle, qui est illimitée. Intemporelle, on peut dire, oui. Oui, non soumis au temps, ou même s'il s'abaisse à être dans notre temps, parce que Dieu, oui, est atemporel, mais il vit quand même avec nous le temps qui passe, là. Et dans de notre point de vue, où est-ce qu'on est soumis au temps, il est illimité. Oui. Donc, il existe. Et ça, vraiment, ça rappelle la présentation que l'Éternel a faite lui-même dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez à quelle occasion? C'est lorsque Moïse le rencontre, il est dans un buisson qui brûle, le buisson ardent. Et là, Dieu, il envoie Moïse vers son peuple qui est en esclavage en Égypte. Il dit, tu vas libérer mon peuple. Mais il dit, OK, mais ils vont me demander, c'est qui m'envoie? Comment tu t'appelles? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, ou celui qui est, celui qui existe. Ce qui a donné le mot éternel en français. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Donc, l'Éternel lui-même a affirmé, « Je suis, celui qui existe. » Vous ne pouvez pas dire de moi là, que j'existais, que vous m'avez dépassé dans le temps, là. ou que je vais être votre successeur, là, j'existe toujours. C'est pas juste que j'ai existé, ou j'existe maintenant, ou j'existerai, c'est j'existe en tout temps. Je suis éternel. C'est ça que le mot éternel est bon. Mais ici, Jésus affirme lui-même, à l'époque d'Abraham, je suis. Et c'était assez clair que les Juifs ont voulu le lapider, ont voulu le mettre à mort. C'est pas juste parce que il avait dit une niaiserie, comme on dirait en québécois, là. C'est-à-dire qu'il a vu Abraham et il divaguait. Il est en train de déclarer vraiment qu'il est l'égal de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Donc, c'était un blasphème pour les Juifs. On a, je pense que c'est un dernier passage qu'on va regarder dans Jean. C'est dans Jean 17, 5. C'est quand Jésus, il prie son Père. Donc, il est prêt d'être saisi pour être livré et mourir. Il est avec ses disciples. Là, puis, est-ce que Daniel, tu pourrais nous le lire, s'il vous plaît? Wow, c'est toute une déclaration, là. Ici, Jésus, il prie son Père, parce que lorsqu'il était sur terre, il n'était pas glorifié, mais il prie son Père, « Accorde-moi la gloire que j'avais auprès de toi. » Quand ça? Avant que le monde fût ou soit ou existe. Donc, Jésus était dans la gloire divine auprès du Père avant la création, avant que le monde existe. Puis aussi, souvent, Jésus, lorsqu'il s'adresse à ses disciples ou à ceux qui le suivent ou aux pharisiens, il va donner des déclarations qui sont surprenantes. Là. Personne n'est monté au ciel. On le dit souvent, ça. Les Québécois, ils disent ça. On ne sait pas ce qui se passe après la mort. Il n'y a personne qui est allé et qui est revenu. Là. Jésus dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé là-bas. Là. Le Fils est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Il dit dans Jean 6, 62, « Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. » Donc, quand on dit que Jésus est venu au monde, c'est pas dans le sens faible comme nous, on va dire, quand un bébé naît, qu'il est venu au monde en telle année. Jésus, c'est vraiment qu'il est venu. Il s'est déplacé là, dans le monde, c'est ça. Maintenant, on va aller voir dans Hébreu. On ne sait pas qui est l'auteur d'Hébreu. Donc, on ne dit pas selon tel ou tel auteur. Là. Plusieurs pensent que c'est Paul. Il y en a qui pensent que c'est Apollos ou Luc. Il y a eu plusieurs théories, mais c'est probablement aussi quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'introduction de Hébreu. Les trois premiers versets. Donc, l'auteur commence ici par nous rappeler qu'autrefois, donc à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu s'est adressé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, aux hommes, par les prophètes. Et maintenant, dans les jours qui sont les derniers, c'est maintenant ça, les derniers jours, depuis, ça fait déjà 2000 ans, là, mais on est dans la dernière ère avant la fin du monde. Et dans ces jours-là, il nous a parlé par son Fils, par le Fils. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, dans le langage original, c'est écrit en grec, c'est écrit, il nous a parlé par Fils ou en Fils. Il n'y a pas l'article « le ». Ce n'est pas par le Fils, c'est par Fils. C'est comme si le moyen qu'il a utilisé pour nous parler, le langage, c'est Jésus, c'est le Fils. Il ne nous a pas communiqué en langage des signes ou avec une langue en français. Il nous a parlé en Fils. Ça veut dire que le Fils, Jésus, c'est pas seulement celui qui a transmis la parole de Dieu comme tous les prophètes l'ont fait, ou comme d'autres prophètes qu'on a cru et qui sont venus. Donc, Jésus a plus qu'été un prophète, il a été lui-même la parole de Dieu. Donc, c'est vrai que Jésus dit qu'il nous transmet les paroles de Dieu, mais lui-même, il est la parole de Dieu, il est la révélation de Dieu. Ça fait du sens? Donc, c'est subtil, là, mais c'est le moyen que Dieu a utilisé pour nous parler. C'est le Fils. Il nous a parlé en Fils. Donc, Jésus est la parole. Ça nous rappelle ce que Jean a dit. Au commencement était la parole. Mais c'est sûr qu'il y a une preuve ici que Jésus existait avant de naître sur terre. C'est surtout par rapport au fait qu'il a créé le monde. Et pour ça, on l'a vu dans les versets qu'on vient de lire, mais on va aussi aller voir dans chapitre 11, verset 3. Oui, donc c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait ou formé par la parole de Dieu. Donc, la parole, c'est pas seulement le moyen que Dieu a utilisé pour nous s'adresser à nous, se révéler, mais c'est pour créer. Et ce qu'on voit, tout ce qui est dans le monde, toute la matière, ne provient pas de ce qui est visible. Donc, Dieu a tout créé ex nihilo, à partir de rien. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé la parole pour créer... C'est quoi l'expression qu'il a utilisée? Pour créer quoi? Oui, le monde, ou les mondes. C'est l'univers, oui, en fait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le mot, c'est « aion », ça veut dire « siècle ». Et on retrouve souvent ce mot-là dans l'expression « au siècle des siècles ». Ça démontre il y a une notion de temps dedans aussi. Donc, c'est le monde, mais pas seulement la matière, mais le monde qui existe et qui... on comprend qu'il a créé le temps aussi en même temps. Il y en a plusieurs qui appellent ce concept-là l'espace-temps. Donc, Jésus a créé les mondes ou les siècles. Ça veut dire tout ce qui est dans l'espace, ce que l'univers contient, mais tout ce qui s'est passé dans l'univers aussi, tous les événements. Dieu a créé Jésus a tout créé finalement. Donc, tout ce qui est contenu dans l'espace et tout événement qui survient dans le temps. Mais je pense que c'est délibéré là, qu'il utilise le mot siècle pour parler de ce que Jésus a créé. Bon, c'est le vocabulaire propre de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais dans Hébreu aussi, il va utiliser l'expression au siècle des siècles quand il loue Dieu. Il veut que le Seigneur soit glorifié au siècle des siècles. Donc, forcément, si Jésus a créé l'univers et toutes les successions de siècles dans l'univers, bien, c'est parce qu'il existait avant ou en dehors, même du temps. Oui, dans Logos, il y a la notion de sagesse, mais il y a la notion d'autorité, aussi de déclaration. Comme quand Dieu crée l'univers, là, il dit que le soleil soit, là, ou que la terre soit, que les eaux se séparent, que la lumière soit. C'est par sa volonté que toute chose existe, et en parlant. Donc, il y a toute la sagesse de Dieu, mais il y a toute sa volonté, son autorité. Oui, c'est ça, son autorité prononcée, déclarée. Hébreux 2, 9. Oui, donc le verset parle qu'il est mort pour nous. Mais est-ce qu'il y a un indice dans ce verset-là qui montre qu'il existait avant de naître sur terre? Est-ce qu'il y a un indice qui montre sa préexistence? Oui, il a été fait un peu de temps inférieur aux anges. Inférieur aux anges, ça sous-entend que ce n'était pas son statut avant ça. Donc avant, il n'était pas inférieur aux anges, il était au-dessus des anges. Donc ce n'était pas son statut normal, ni son statut d'origine. C'est que pour un temps, comme une parenthèse dans son existence, où est-ce qu'il a été abaissé en dessous du rang des anges? Bien, on comprend que c'est quand il est venu sur terre. Il s'est abaissé, il s'est humilié comme un simple homme. Pendant qu'il marchait sur terre, dans un sens, les anges étaient plus élevés que lui. Donc, s'il a été abaissé au niveau, à un rang inférieur aux anges, c'est parce qu'il existait avant. Une déclaration forte de sa préexistence. En Hébreux 7, ici, on parle de Melchisédek, qui est un roi, qui était à la fois roi et à la fois prêtre dans l'Ancien Testament. On ne sait pas grand-chose sur lui, il y a seulement quelques versets qui en parlent. Mais justement, le fait qu'il apparaît dans l'histoire subitement, et après ça, on n'entend plus parler, c'est étrange. C'est un personnage qui est mystérieux. Et on lit... je vais vous le lire. Chapitre 7. « Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. Et c'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, et aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. » Et il demeure sacrificateur à perpétuité. Ça, ici, ça a soulevé certains débats, là, mais ce qu'on comprend, en fait, c'est que Melchisédek, c'est un homme comme vous et moi, là. Mais un serviteur de Dieu qui était roi, qui était prêtre. Bon, il n'était pas aussi quelconque que nous, là. Il était roi de Salem. Il était prêtre de Dieu. Mais c'est la manière dont il est présenté dans Genèse qu'on ne connaît pas qui est son père, on ne connaît pas qui sont ses parents, on ne sait même pas s'il était parent de près ou de loin avec Abraham, s'il y avait un lien quelconque avec les Hébreux. On ne sait pas comment ça se fait qu'il était prêtre. Donc on ne connaît pas sa généalogie. Il apparaît dans l'histoire sans qu'on connaisse son père, sa mère. On ne connaît pas quel âge, la durée de ses jours non plus, on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. Mais ce que l'auteur de l'Hébreu ici nous dit, c'est que c'est voulu, ça. Le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible a fait en sorte que Melchisédek apparaisse comme ça, dans l'histoire, subitement, et c'était voulu. Parce que dans la manière dont il est présenté, c'est comme un exemple, c'est un type de Jésus qui allait venir, du Fils de Dieu. Et dans quelle manière qu'il est rendu semblable à Jésus? De plusieurs manières, entre autres qu'il est un sacrificateur sans qu'il ait été ordonné par la loi de Moïse. En fait, Moïse n'existait même pas à l'époque. Il est sacrificateur de Dieu sans être un Lévite. Il n'a pas hérité ce titre-là de son père? Ben, on ne sait pas. Ben, je crois que non. Il y en a plusieurs qui ont supposé ça, là. Mais la manière que c'est écrit, c'est que Melchisédek est présenté dans le texte d'une manière qui nous fait... Il dévoile qu'un jour, il va y avoir un sacrificateur qui ne sera pas un Lévite. Et un jour, il va y avoir un sacrificateur qui réellement n'aura pas de généalogie, pas de père ou de mère, et sans commencement de jour et sans fin de jour, si on peut dire. Donc, Melchisedec est présenté pour servir d'exemple au Fils de Dieu qui est éternel, sans fin. Et c'est pour ça que David, dans un psaume, il va utiliser Melchisedec pour dire un jour, il va y avoir un prêtre, là, comme Melchisedec, qui va venir sans début de mandat et fin de mandat. Là, ouais. On comprend que Melchisedec est un type de Christ, comme un exemple à l'avance de qui allait être Jésus, en tant que prêtre et en tant que roi en même temps. Ça n'arrivait jamais, ça, dans le peuple d'Israël, qu'un roi et des prêtres, là, en même temps. Mais ce qui est intéressant ici, c'est sans commencement de jour ni fin de vie. Donc, s'il est semblable au Fils de Dieu, qui est sans commencement de jour, c'est vraiment une indication que Jésus est sans commencement de jour, qu'il est éternel. Donc, c'est une indication de sa préexistence. Mais clairement, il était un vrai sacrificateur de Dieu, là. C'était pas un faux, là. Mais on ne connaît pas grand-chose sur lui. Il y avait déjà une forme de culte avec des sacrifices d'animaux. Quand on connaît Jésus, puis qu'on relit ces textes-là, waouh, on voit Jésus qui était déjà là, mais pas en personne, mais toutes des indications qui pointent à Jésus. On a plusieurs indications aussi dans les écrits de Paul, dans ses lettres. Il déclare la préexistence de Christ. Et une, c'est dans Galates 4, versets 4 et 5. Bon, est-ce qu'il y a un indice là-dedans qui montre que Jésus existait avant de naître sur terre? Oui, le Fils a été envoyé, né d'une femme. C'est de parler de quelqu'un et de dire qu'il est né d'une femme, ben, c'est banal, on est tous nés d'une femme, là. On a tous une mère. Donc, pourquoi spécifier cela? C'est justement parce que le Fils n'était pas un homme. Et Dieu l'a envoyé pour qu'il devienne un homme, qu'il naisse sous la forme d'un homme, qu'il naisse d'une femme. Si Paul prend la peine de spécifier ça, c'est clairement parce qu'il existait avant, mais pas sous la forme humaine. Donc, Dieu l'a envoyé sur terre et il est devenu humain. Donc forcément, il existait avant. Il est le sacrificateur et le sacrifice en même temps. Oui, le dernier. Et donc, le dernier sacrifice qui a été offert aussi. Oui, il y a rien qui est son égal, là, c'est sûr. Donc, on comprend même que tous les sacrifices qui ont été offerts, c'était comme une imitation, là. C'était un type du sacrifice ultime. Il n'était pas un simple sacrificateur comme les autres. Il n'était pas un simple prophète comme les autres non plus. Une remarque semblable, c'est dans Romains 8, 3, où il dit « Dieu, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Nous, parce que nous sommes charnels, nous avons un cœur qui a hérité d'une nature pécheresse de nos parents. On est, quand on dit « on est humain », c'est souvent une manière synonyme de dire « on est pécheur ». On est des gens qui vont faire des erreurs, des gaffes, des choses à regretter. Donc, Jésus est venu dans une forme semblable. Bien sûr, il n'y avait pas de péché en lui. On va y revenir plus tard, ça, quand on va parler de son humanité. Mais il est venu dans une forme semblable aux hommes pécheurs. Dans 8.32 aussi, on écrit « Lui, en parlant de Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. » Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Ça aussi, ça sous-entend que celui qui est considéré comme le Fils de Dieu que Dieu a livré pour qu'il soit mis à mort, ça sous-entend une relation intime avec le Père qui dépasse simplement la vie terrestre que Jésus a vécue. Jésus a vécu 33 ans sur terre. On parle de la relation intime entre le Fils unique et Dieu. Ça ne s'est pas bâti simplement dans ces 33 années-là, là, en tant qu'être humain. Ça sous-entend forcément une relation qui existait avant même qu'il vienne sur terre. Que Dieu, lorsqu'il a livré son Fils, c'est pas juste au moment où est-ce qu'il a été crucifié, c'est en l'envoyant sur terre, il le livrait à finalement mourir pour nous. Avant que l'agneau meure, il est déjà un agneau qui est destiné à être sacrifié. Là. C'est intéressant, ça, quand le peuple d'Israël est sur le point d'être libéré d'Égypte, là, ils prennent à part un agneau, puis l'agneau vit avec eux pendant quelques jours, là. Et c'est déjà, pas un homme mort, là, mais un animal mort. Il est destiné à mourir. Donc, Jésus, en venant sur terre en tant qu'agneau de Dieu, il était déjà livré à la mort. Et ça nous fait penser à la déclaration que tout le monde connaît, là, Jean 3,16. En fait, c'est une autre manière de dire la même chose, que Dieu a donné son Fils. Hein? Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a donné pour qu'il soit sacrifié. Que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ou une autre manière de le dire, c'est qu'il nous donnera tout avec lui par grâce. Le fait que Dieu nous donne tout par grâce, ça veut dire aussi sans fin. Une autre manière de décrire la vie éternelle qu'il nous donne. Donc, forcément, Jésus existait avant. Il était déjà le Fils unique de Dieu bien-aimé. Si on dit qu'il a commencé à exister seulement lorsqu'il est né sur terre, ça réduit beaucoup le fait du sacrifice que Dieu a fait en livrant son Fils. Là. Il a finalement sacrifié simplement un homme qu'il a mis au monde par son Saint-Esprit, là, mais ça réduit beaucoup, même, dans un sens, la preuve d'amour de Dieu. Si la preuve d'amour nous dépasse, là, c'est parce que le Fils existait avec le Père avant qu'il l'envoie sur terre. On a dans la lettre aux Corinthiens, aussi dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9, oui, donc on dit que Jésus-Christ était riche et qu'il s'est fait pauvre. Quand est-ce qu'il était riche? Oui, forcément. Il y en a qui vont dire qu'au début de sa vie, il était riche, là, son père était charpentier, très prospère. Ça ne fait pas de sens. Ah, les mages ont apporté de l'or, hein, peut-être c'est ça. Non, mais forcément, il est venu sur terre vraiment dans une condition humble. Quand on parle de sa richesse, c'est forcément avant qu'il naisse sur terre. Là. On parle de sa richesse dans les cieux, la gloire qu'il avait. Donc, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, c'est avant de venir sur terre. C'est une déclaration qui ressemble à celle qu'il va faire aussi dans Philippiens, un passage qu'on cite souvent. Il est dit que lui, Jésus, dont la condition était celle de Dieu, dans tout ce qui va avec, la gloire, la richesse, la puissance, il n'a pas estimé comme une proie arrachée, comme un animal prédateur là, qui garde sa proie, là, d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire qu'il était prêt à s'en départir. Il s'est dépouillé lui-même, comme un roi qui enlève son manteau, ses vêtements. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Ce verset-là, là, si on lit ça et qu'on ne croit pas que Jésus a existé avant de venir sur terre, là, je ne sais pas comment on fait pour l'interpréter. Donc, il s'est dépouillé de toute la gloire, de toute sa richesse, de lorsqu'il était auprès de Dieu, pour venir sur terre semblable aux hommes, dans l'humilité même d'un esclave, la pauvreté. On a aussi dans Colossiens 1, je pense que c'est le dernier passage qu'on regarde pour les lettres de Paul, là. En fait, ça ressemble un peu à ce que Jean disait, puis Hébreux aussi. 1 Corinthiens 1, 15 à 17. Donc, encore une fois, c'est une description du fait que Jésus est le Créateur, qui existe même avant toute chose. Si jamais vous mettez la main sur la traduction ou la version des Témoins de Jéhovah, les autres, ils ont ajouté avant toutes les autres choses. C'est subtil, mais ça sous-entend que Jésus est une chose créée lui aussi, mais qui a été créée avant toutes les autres choses. Et c'est pas ce que le texte dit. Il a été créé avant toutes choses. Avant tout ce qui existe dans l'univers, Jésus existait avant tout ce qui a été créé. Mais dans le passage qu'on vient de lire, il y a quelque chose qui soulève peut-être une interrogation, puis ceux qui critiquent la divinité de Jésus vont l'utiliser. C'est le fait qu'il est appelé premier-né. Il est le premier-né de la création. Qu'est-ce que ça veut dire, premier-né? On lit ça aussi dans Hébreux 1, 6. Est-ce que ça veut dire que Jésus, que le Christ a été créé? Il est le premier-né de la création. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. C'est utilisé souvent à plusieurs reprises pour montrer qu'il il a été comme intronisé, reconnu, déclaré fils de Dieu. Entre autres, premièrement, ou principalement lors de sa résurrection. Il est ressuscité, puis là, quand il est ressuscité, toute sa gloire a éclaté, puis c'est là qu'il a comme été déclaré fils de Dieu, premier-né. Mais ici, c'est même un sens plus général que ça, on peut dire. Ça indique en fait sa noblesse, son rang, son honneur. Dans la Bible, l'expression premier-né revient très souvent. En fait, ça vient de l'Ancien Testament. Donc dans la culture juive, quand on dit que quelqu'un est le premier-né, on ne fait pas tellement référence au fait qu'il est né en premier. En fait, qu'il est le principal héritier. Même, il y a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament où on voit que c'est le deuxième qui a été finalement nommé premier-né. Comme Jacob a été nommé premier-né à la place d'Ésaü, mais c'était sa destinée, là, Dieu l'avait déclaré, c'est Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Le deuxième fils de Joseph a été appelé premier-né aussi, déclaré l'héritier. Donc, c'est le principal héritier dans la maison de son père et c'est lui qui a autorité, surtout dans la maison de son père. Il a autorité sur tous les serviteurs qui s'y trouvent, sur ses frères et sœurs. Il est le représentant du père, finalement, dans la maison de son père. Donc, quand on dit que Jésus est le premier-né dans toute la création, c'est qu'il est l'héritier, le chef, celui qui représente le père dans la création. Dans ce sens-là, qu'il est les prémices, c'est utilisé aussi, un petit peu plus loin, même dans le même passage, pour dire qu'il est le premier-né de la nouvelle création. Il est le premier-né d'entre les morts. Donc, pour les nouveaux cieux, la nouvelle terre, Jésus est le premier. Mais il existait déjà, forcément, là, mais il est le premier dans cette nouvelle création-là depuis qu'il est ressuscité. Puis un jour, nous, on va suivre ses pas. On va être recréés, nous aussi, à l'image de Jésus. Mais bien dans la création actuelle, il est déjà le premier-né à cause de son rang, de son titre. Et la preuve de ça, c'est que l'expression « premier-né » est utilisée dans ce sens-là à plusieurs reprises. Par exemple, le peuple d'Israël a été appelé « premier-né » lorsque Dieu le comparait aux autres peuples. Parce que Dieu avait choisi Israël, et Israël était le premier-né par rapport aux autres nations. Ils étudieraient au Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir, alors moi je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Ton héritier, là, celui qui va être sur le trône, il va mourir si tu ne laisses pas partir mon premier-né. Aussi, on annonçait la venue du Messie, qui allait venir un jour, un descendant du roi David, qui allait régner un règne éternel, puis il est aussi appelé premier-né, ce futur Messie-là. Bon, on sait que c'est Jésus. Dans Psaume 89, on lit « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Je lui conserverai toujours ma bienveillance. Mon alliance sera avec lui sera ferme. Je rendrai sa descendance perpétuelle, son trône aussi durable que les jours des cieux. Il annonçait déjà que son descendant allait être le roi des rois, le premier-né de la terre, de la création. Et c'est parce que, justement, le Fils est le premier-né qu'il est héritier de toutes choses. On lit ça aussi dans Colossiens. C'est pour ça qu'il est héritier de toutes choses. Il est le propriétaire, finalement. Hébreux 1, 2, il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Donc, il était héritier de la création même avant qu'elle existe. C'est par l'héritier que la création a été faite, la maison du Père. Il est le commencement de la création de Dieu, pas parce que lui-même était inclus dans cette création-là, là, mais parce qu'il est le point de départ, le début de la création. Il est l'alpha et l'oméga aussi. Il n'y a rien avant lui et rien après lui. Donc, il règne sur le monde qu'il a créé en tant que premier-né. Et à cause de cela, nous aussi, par notre association à Christ, nous devenons les premiers-nés. Hébreux 12, 23, il parle de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est tous les croyants là, qui sont sauvés en Jésus. On devient tous des premiers-nés en Christ, donc, logiquement, on devient tous des héritiers aussi. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça nous dépasse en tout l'honneur qui nous est fait, là. On va le réaliser un jour, là, mais c'est incroyable. Bon, il nous reste 5 minutes, donc je vais passer rapidement, mais on achève, là. On a lu aussi dans le passage tantôt qu'il y a un verbe aussi qui peut être étrange, c'est que Jésus a été engendré. On dit que quelqu'un a été engendré lorsqu'il est mis au monde, il a été conçu par ses parents. Psaume 2, 7, je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Donc, à l'avance, Dieu annonçait dans le psaume 2 qu'un jour, un homme serait déclaré ou reconnu comme étant son fils engendré de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il a eu un début d'existence? Parce que ce psaume-là est appliqué à Jésus à plusieurs reprises, dont dans Acte 13, Hébreux 1, 5 aussi, engendré de Dieu. Donc, est-ce que son existence a commencé lors de sa naissance? Même si on ne parle pas de sa naissance sur Terre, est-ce qu'à un moment donné, avant que la création existe, là, tout à coup, le Fils est né, a été engendré, et c'est là que son existence a commencé? Oui, c'est le sens qu'on doit comprendre. Mais quand même, ça sous-entend qu'il est sorti du Père. Donc, tout ce qui caractérise le Fils, là, provient du Père, en fait. Toutes ses qualités, ses forces, toutes ses caractéristiques, là, ses caractéristiques divines, proviennent de son Père. Vraiment, il est sorti de lui. Il a été engendré de lui. Il n'a pas été adopté comme nous nous sommes adoptés, comme les anges aussi sont parfois appelés les fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu, le Fils, lui, il est engendré du Père, mais comme de... Nous, on dirait de son propre sang, là, de sa propre chair. Mais Dieu est esprit, là. Il provient du Père, il est Dieu par nature. Ça peut avoir ce sens-là. Mais au moins à deux reprises, là, ça a le sens même d'engendrer avant même que la création existe, donc avant même le jour où il est né en tant qu'enfant. Mais puisqu'il provient de Dieu et qu'il a toutes les qualités de Dieu, il a aussi son éternité. Donc, il est éternel sans commencement. Donc, c'est paradoxal pour nous, là, mais c'est il est né du Père depuis toujours. Il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire, si on peut dire, là, où il n'existait pas. Il a été engendré du Père, mais depuis toute l'éternité. Bien, il a été engendré en chair et en os, là, mais avant même qu'il soit fait chair, il était déjà le Fils. En fait, quand on dit engendré, ça n'ajoute pas grand-chose au mot fils. S'il est Dieu le Fils, c'est par rapport au Père, c'est parce qu'il vient du Père. Là. Oui, mais on dit, il ajoute aussi que la parole était Dieu. Mais on comprend qu'il a été engendré même avant ça. Là. C'est-à-dire qu'avant même que le temps existe, de manière intemporelle, il est le Fils engendré du Père, engendré depuis toute éternité, avant la création, avant le commencement du monde. Un dernier point, là, on conclut vraiment, là, parce qu'après, dans Matthieu, Marc et Luc, certaines déclarations que Jésus fait, là, de choses que l'Éternel a fait dans l'Ancien Testament, il dit que c'est lui. On lui dit, « Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu? » Il parle de l'Ancien Testament, vraiment, il s'attribue les sentiments que l'Éternel a sentis à lui, c'est lui, là. Mais une expression qui est forte dans les évangiles synoptiques, c'est « fils de l'homme ». Pourtant, c'est le mot « homme » qui est là, mais « fils de l'homme », ça révèle de manière peut-être un peu voilée, mais ceux dont le voile est enlevé comprennent, ça révèle la préexistence de Christ. On lit ça dans Daniel 7, vous pourrez aller le lire, qui annonce, Daniel a une vision, puis il voit venir du ciel, sur les nuées, un homme, bien, un être qui a l'apparence d'un homme, mais qui lui est, il est finalement le Tout-Puissant, il a toute la domination, il a un règne éternel, pourtant il a l'apparence d'un homme, il devient homme. Mais il vient du ciel. C'est le Fils de l'homme. Et Jésus souvent s'appelle le Fils de l'homme. C'est pas juste pour rappeler aux gens qu'il est un humain. Vraiment, c'est une déclaration forte. Ceux qui le comprenaient trouvaient qu'il blasphémait. Là. Il vient du ciel. Il est semblable à un homme. Donc Jésus est venu du ciel d'abord humblement. Mais un jour, il reviendra. Parce qu'on lit dans Daniel que ce Fils de l'homme-là qui vient sur les nuées, il vient pour juger le monde aussi, de la part de Dieu. Et il reviendra. Et on va lire ça quand même, en conclusion. Jésus garda le silence et ne répondit rien, mais le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau. Il lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? » Que vous ensemble et tous le condamnèrent comme passible de mort. » Donc la déclaration « Fils de l'homme » vraiment montre la préexistence de Jésus, qu'il est, il n'est pas simplement Jésus de Nazareth, il est Jésus, fils de l'homme, venu des nuées. D'abord, humblement, mais il va certainement venir des nuées pour juger le monde avec puissance.